Star Wars en direct vous est présenté par SiteClan.net, MintInbox.net, StarWarsUniverse.com et CamuliWeb.com.
Bienvenue à tous à la 7e édition de Star Wars en direct édition Clone War. Cette semaine, nous parlons de l'épisode Cloak of Darkness. Cet épisode a été mis en scène par Dave Filoni et écrit par Paul Dini, reconnu surtout pour son travail sur la série Batman Beyond. Parmi la distribution, à noter James Marster, qui joue le capitaine Argaius, et Olivia Dabo, qui joue le rôle de Luminara Unduli. Voici le résumé de l'histoire. Le vice-roi Gonré a été capturé. Avec le succès de la sénatrice Padmé Amidala sur Rodia, la République avait remporté une victoire majeure. Alors, sous les verrous, le chef de la Confédération du Commerce attendait son jugement. Le Conseil Jedi confia au maître Jedi Luminara Unduli et à la padawan d'Anakin Skywalker Ahsoka Tano la tâche d'escorter le Némodien sur Coruscant. Rodia. Une frégate républicaine quittait l'orbite de la planète pour rejoindre le destroyer Venator Tranquility, amenant à son bord les Jedi Unduli et Tano et leur précieuse cargaison Nude Gunnery, escortée par le commandant Gree. À bord du destroyer, ils furent accueillis par le chef d'un commando de garde du Sénat, le capitaine Argaius. Nude Gunnery ne pouvait s'empêcher d'affirmer que toute cette mascarade de justice n'avait aucun sens, mais les républicains n'eurent aucune sympathie pour lui. Ahsoka Tano était, quant à elle, assez surprise des mesures de sécurité si impressionnantes déployées pour le séparatiste. À des parsecs de là, Dooku recevait les craintes de Dark Sidious quant au peu de résistance qu'allait offrir Gunnery face aux enquêteurs Jedi. Le précieux secret du mouvement séparatiste était sur le point d'être révélé aux alliés des Jedi. Le comte de Sereno lui assura qu'il avait déjà envoyé son meilleur agent sur place, infiltrer le Tranquility pour libérer Gunnery, ou pour le rendre définitivement silencieux. Mais Sidious était des plus sceptiques sur les capacités de Ventress. Le Tranquility quittait à peine l'orbite de Rodia et déjà Luminara Unduli questionnait Nude Gunnery. Sa peur était perceptible et Tano joua là-dessus pour forcer le Némodien à parler. Elle le menaça de sa lame de sabre laser, ce qui le terrifia au plus haut point. Ce fut à ce moment que les chasseurs droïdes apparurent suivis de près par 3 capsules d'infiltration. Gree ordonna à sa compagnie de se préparer à repousser les assaillants. Les vaisseaux séparatistes n'eurent aucun mal à percer la coque du destroyer et à relâcher leur cargaison de droïdes de combat. La compagnie verte se retrouva rapidement en infériorité et les forces séparatistes parviennent à s'enfoncer davantage dans les profondeurs du destroyer, là où les blocs de détention se trouvaient. Luminara et Gree laissent Gunnery entre les mains de Ahsoka Tano et du capitaine Argaius afin d'aller aider leurs hommes. Lorsque les combats dans le hangar se calmèrent, Asajj Ventress se décida à sortir d'une des capsules. Un clone parvint à lui tirer dessus, mais elle n'eut aucun mal à repousser le tir. Le malheureux se retrouva décapité et Ventress s'empara de son unité de communication avant de se frayer un chemin dans les conduits de ventilation du vaisseau. Les droïdes de combat enfonçaient inexorablement les lignes républicaines jusqu'à ce que Unduli et Gruss ne rejoignent les clones en place. Ensemble, ils parvinrent à se défaire de la menace droïde, mais le Jedi ne se sentait pas pour autant en sécurité. En effet, Ventress avait pu rejoindre la salle des moteurs du Tranquility et au nid et à la barbe des droïdes de sécurité et des clones, elle parvint à mettre en place des explosifs. Dans la cellule de détention, alors même que Tano annonçait l'échec de la mission de rescousse à Nude Gunnery, 2 lames rouges firent leur apparition. 2 commandos n'eurent pas le temps de réagir et 2 autres succombèrent lorsque l'assassin renvoya leur tir de blaster. Le capitaine Argaius et Tano étaient seuls face à Ventress. Cette dernière feinta la jeune Padawan et fonça sur la cellule du chef séparatiste, désactivant le champ de confinement le temps de libérer Gonneret et le réactivant une fois Tano poussé à l'intérieur. Mais Luminara et Gris arrivèrent à leur tour et avec Tano libéré par la Jedi, Ventress s'apprêta à rendre les armes. Elle joua son dernier atout et déclencha les explosifs. Distraits, les Républicains ne purent empêcher la fuite d'Assage Ventress. Luminara Unduli ne tarda pas à la poursuivre, mais laissa Ahsoka veiller sur Gunray aux côtés de Gris et de Argaius. Mais, tiraillée entre ce qu'on lui a ordonné de faire et ce qu'elle pensait être juste, elle écouta Argaius et alla rejoindre Unduli. Le combat entre la Jedi et l'assassin des Sith tournait mal pour Unduli. Bien qu'elle parvint à repousser la plupart des projectiles que Ventress lui envoyait, elle fut touchée par l'un d'eux. Asajj Ventress s'apprêta alors à lui asséner le coup de grâce. Ahsoka Tano arriva à temps et libéra Unduli des griffes de Ventress. L'assassin changea de tactique et alla se terrer dans les ombres pour activer un signal. L'effet fut immédiat et terrifiant puisque Argaius, dans le bloc de détention, se retourna contre ses propres équipiers avant de les abattre froidement. Seul Gris échappa au carnage, mais il ne put intervenir car le capitaine tenait en otage Gunray. Gris ne pouvait pas prendre le risque de blesser ou de tuer le prisonnier. À l'autre bout du Tranquility, Luminara concédait à Tano que son aide était la bienvenue. Gris contacta alors cette dernière pour l'informer de la traîtrise du capitaine du Sénat. La Jedi avoua qu'elle avait sous-estimé Ventress, juste avant de se lancer à la poursuite du traître et de Gunray. Mais Asajj Ventress lui bloqua le chemin. De retour au bloc de détention, la situation était également dans une impasse. Argaius et Gunray faisaient face à Gris. Le clone d'un tir précis désarma le capitaine de la garde. S'ensuivit alors un combat qui ne laissa aucun des deux combattants prendre le dessus sur l'autre. Seul un coup de crosse de Gunray sur la tête de Gris, que les soldats avaient oublié, permit de mettre un terme au combat. Une dernière série d'explosions permit aux séparatistes de se frayer un chemin hors du Tranquility. Argaius, fier de sa prestation, assura Ventress qu'elle ne sera pas en reste dans son rapport à Dooku. Celle-ci, en toute réponse, figea sa lame en plein dans la poitrine du garde. J'ai eu la chance de discuter avec François à propos de Cloak of Darkness et voici nos commentaires. Bon, je suis en compagnie de François, ex-administrateur du forum de siteclan.net. Salut François.
Salut.
Donc, on va parler de l'épisode Cloak of Darkness. Qu'est-ce que t'as pensé en général, avant d'aller dans nos détails, là, qu'est-ce que t'as pensé en général de l'épisode?
En général, je pense que c'est un bon épisode. Il y a eu un bon pacing, comme on peut dire. Là. Du début à la fin, ça s'est bien suivi, les actions. Puis il y a un mix de combat, un mix de morale. C'est pas mal bien diversifié, puis j'ai bien aimé ça. Mm-hmm.
Moi, c'est comme j'avais noté, il y a un bon rythme, et puis je trouvais que ça... Contrairement à certains autres, comme le dernier épisode du Malevolence, dont j'avais eu l'impression qu'il avait été, les animateurs avaient été pressés à la fin. Tu sais, tu sentais que le rythme accélérait beaucoup à la fin pour terminer l'épisode. Dans le cas de cet épisode-ci, je trouve que le rythme est parfait. Il y a aucun endroit que je trouve que ça a été rushé, si on peut dire que ça a été fait à la dernière minute. C'est vraiment le rythme est égal d'un bout à l'autre. Il y a aucune scène inutile, il y a aucune scène de trop. Donc je trouve que c'est un des très bons épisodes. L'épisode Girl Power, si on peut dire, parce que toutes les Jedi sont féminines.
Il y a un petit peu d'humour dans ça, mais il y a aucun humour infantile, si tu veux. Il y a pas de. C'est pas des jokes. De pipi caca merde là, je veux dire c'est tout des c'est plus Gunray en fait qui fait un peu l'humour dans cet épisode là mm-hmm. par son imbécilité un peu
hein. Ouais, et le petit droïde dans le fond, je pense que c'est les deux seuls comic relief là, les deux seuls comédiens de l'épisode.
Ouais,
ben les, comme tu dis, dans les deux cas le petit droïde aussi faisait comme son niaiseux là, mais pas capable de voir Asajj qui saute un peu partout là.
Mais c'était pas un humour minable, là. C'était en fait que lui, c'est une version de Druid qui est assez lent et qui bouge pas très rapidement, là.
Donc, la première chose qu'on peut remarquer, c'est qu'au début de l'épisode, il y avait une étiquette ou une annonce pour la violence, le moderate violence. Je pense que c'est la première fois qu'on le voit aussi flagrant, en tout cas dans mon cas. Habituellement, tu avais peut-être une petite annonce, mais il me semble que c'est la première fois que je le vois. Donc, j'étais content, je m'attendais à ce que quelqu'un meure à cause de ça.
C'est Argaius probablement à la fin, c'est peut-être juste pour ça, là. Je vois pas d'autres.
Je pense qu'il y avait eu cette annonce quand Grievous a aussi tué Gannacht. Quand il a transpercé Gannacht avec son sabre laser, quand il voulait tout le temps monter les enchères pour R2-D2. Je pense qu'il y avait aussi cette annonce-là au début de l'épisode. Donc, pour montrer que quand il y a quelqu'un qui se fait transpercer par un sabre laser, quelqu'un qui est pas robotique, là, disons-le.
Ça, il y a aussi un clone qui se fait couper la tête, donc...
En effet, c'est vrai. Donc, le Fortune Cookie, « Ignore your instinct at your peril ». On pourrait traduire ça « Ignore tes instincts à ton péril » ou « Je sais pas comment tu traduirais ça ».
Bon, c'est ça, « Ignore tes instincts et tu périras » ou quelque chose c'est comme ça.
C'est ça. Si tu ne suis pas tes instincts, surveille tes arrières, dans le fond. Ou quelque chose
en
comme
fait,
ça.
En fait, moi, j'ai eu de la misère à savoir est-ce que ça s'applique plus à Ahsoka ou à Luminara. Au début, là, je me posais la question. Il a fallu que je regarde une deuxième fois, peut-être l'épisode, pour me rendre compte que c'est peut-être plus à Luminara que ça s'applique, là.
C'est-tu l'instinct d'Ahsoka d'aller aider Luminara? Donc, si tu ignores tes instincts, ben, ça va être périlleux ou le contraire. Puis l'instinct de Argaius de trahir la République, et comme tu disais, il y a la phrase, je me souviens pas c'est quoi trop la phrase qu'il prononce, il dit qu'il faut que des fois que tu désobéisses pour...
C'est marqué, il disait « Sometimes being a soldier is doing what you think is right ». C'est ça, des fois, il pense un peu qu'on peut désobéir aux ordres si on pense que c'est correct, dans le fond.
Donc, dans son cas, ça a pas fonctionné, mais dans le cas d'Ahsoka, ça a fonctionné.
Ouais.
On peut dire. Bon, pour ceux qui avaient été sur StarWars.com, il y avait un petit webcomic qui était plutôt simple. Ça faisait juste expliquer le fait que Anakin avait envoyé Ahsoka sur Rodia pour aider au transfert de Node Gunnery, aider Luminara avec le transfert de Node Gunnery. Donc, c'est pour ça qu'on les voit... tous les deux dans la cabine de pilotage au début de l'épisode. Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans cet épisode-là aussi? C'est la première apparition officielle des Senate Commandos. Donc, toi, tu mentionnais que c'était comme un mix, là.
Ouais, c'est ça. Ça ressemble à un mix entre les Clone Troopers, Stormtroopers et Imperial Guards, donc les gardes impériaux. En fait, ils ont le même habit que les clones, avec peut-être une épaulière, si tu veux, un peu plus grosse, là.
Dans le fond, puis il y a un casque différent pour Capitaine Argaius. Je sais pas s'il y avait une raison quelconque pour ça. C'est vrai que ça ressemble plus aux gardes que tu vois à la fin de l'épisode 1, puis dans l'épisode 2, qu'on voit le visage, tandis que les deux autres avaient des visières. On n'a pas vu peut-être une visière qui se baisse, là, je sais pas. Mais moi, ma question, c'est est-ce que ça a une utilité de Senate Commando? Pourquoi pas prendre du personnel militaire qu'ils ont déjà, ils ont une armée de clones. À quoi le Sénat est si important qu'il y a besoin de commandos?
C'est ça. Est-ce que c'est une entité séparée qui ont besoin, parce qu'il y a déjà des clones commandos? Est-ce que c'est comme un peu l'armée américaine qui ont la marine, l'armée, puis l'armée de l'air, là, je veux dire? Ils ont-tu des divisions séparées pour avoir des troupes séparées? Je sais pas.
C'est ça, c'est comme les services secrets du président, là, dans le fond, un peu. J'imagine que les Senate Commandos vont comme tourner en les Red Guard, là, les Imperial Guard, là, en rouge. Là. J'imagine que c'est un peu ça, dans le fond, en tout cas. Peut-être qu'on va le voir, on va voir ça évoluer au cours des épisodes. Je doute qu'on revoie beaucoup de Senate Commandos, en tout cas, mais bon. Ça avait pour but de montrer que quelqu'un de proche de Palpatine avait trahi grâce à Dooku. Là.
C'est ça, il s'était fait promettre de l'argent, donc.
Mm-hmm. Ensuite, bon...
Il y a aussi Gunry qui offre de l'argent à Gree au début.
Ouais, de l'argent, des planètes.
Ouais, c'est ça.
Je pense qu'il profite de son argent au maximum. Juste pour terminer avec les Senate Commandos, on remarque que Capitaine Argaius avait l'impression d'avoir une coupe de cheveux en plastique. Là. C'est ceux qui ont vu le film The Incredibles. Il fait comme le méchant syndrome. Il a vraiment la coupe de cheveux là, gelée vers l'arrière. Là. C'est assez étrange. Là.
Moi, il me semblait un peu arrogant aussi. C'est un peu comme nous autres au Québec, on dirait un fraîchier, mais mm-hmm. Il était un peu arrogant. Puis moi, il me faisait penser peut-être, je sais pas, à Isoldair, je sais pas, dans
l'univers
étendu, peut-être, je sais pas.
Ouais, le prince Isoldair, j'ai pensé un peu à ça aussi, ouais. Mais j'ai l'impression justement qu'il y avait pas de visière pour qu'on puisse voir les expressions de son visage. S'il y aurait pas eu les traits de visage puis ses regards, on aurait peut-être pas vraiment vu pas la haine que pour les clones, mais je veux dire, on n'aurait pas vu qu'il était croche un peu, là. Comme tu dis, arrogant, là, dans le fond. Une chose qu'on pourrait mentionner aussi, les boarding ships, moi, je les trouve géniales. C'est-à-dire, quelle meilleure façon pour attaquer les vaisseaux que d'arriver dans des pods. Oui, ça ressemble à des presses agrumes, là, mais...
Oui, c'est à peu près ça, ouais. C'est...
Mais, je veux dire, qu'ils s'en vont, puis ils scellent, ils font comme sceller... Ils se scellent, puis l'air rentre pas, puis c'est un super bon moyen... pour attaquer les vaisseaux. Je comprends pas que on n'ait pas vu ça ailleurs, déjà dans l'univers étendu. Ah, oui, il y a de quoi qui ressemble à ça. Je pense que c'est dans la trilogie de Timothy Zahn. T'avais comme les Mole Miner que Lando avait. Puis, justement, c'était les clones qui embarquaient. Les Mole Miner s'attachaient après les vaisseaux. Ils creusaient comme un petit trou sur la coque, puis les clones débarquaient à l'intérieur.
Hey, donc c'est un peu le même principe.
Là. Ouais, dans le fond,
mais je comptais aussi que ça soit pas des droids simples qui sont tombés, mais c'est plus les clankers, comme on appelle,
les super battle droids.
Les super battle droids. Parce que sinon ça aurait été autre boss, Roger, puis je m'en fâche dans mes
Ouais. Ils ont été
il y avait un défi quelconque, là. Je veux dire,
ils ont été de façon sérieuse cette fois-ci, là.
Ouais, c'est vrai, on dirait que c'est un épisode plus sérieux.
Dans le fond, sérieux dans le sens que il fallait qu'il aille chercher Gunray, là, parce que il a l'esprit trop faible, on dirait, pour Dooku. Puis Palpatine pense qu'il est pas capable de se retenir à mentionner de l'information. Pourtant...
On voit qu'il est capable.
On voit qu'il est capable, ou que c'est vraiment Luminara qui est vraiment pas aussi forte qu'on l'aurait cru. Moi, j'aurais pensé qu'elle serait beaucoup plus forte que ça. Elle avait de la misère à lire, là, la pensée de Gunray, là, il a fallu que Ahsoka fasse son Jack Bauer pour
ouais, c'est ça.
Fasse son Jack Bauer là, avec son sabre laser
puis insiste fortement.
Ben exactement, là, je veux dire
Non, mais ou peut-être, je viens de penser à ça, je voulais juste mentionner que c'est peut-être un cas un peu comme Watto. Donc on peut pas lire dans ses pensées. Est-ce que c'est une race qui fonctionne un peu comme ça?
Hmm.
Mais en tout cas, il semble pas un personnage très intelligent puis qui serait capable de résister normalement à un interrogatoire avec un Jedi. Là.
Exactement. À moins qu'il y ait des Jedi qui sont meilleurs pour lire la pensée des autres, là, que c'est pas c'est pas son forté, si on peut dire, les interrogatoires, enfin.
Peut-être.
Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Ben, il y avait le petit droïde qui s'appelait 327T.
Ouais, et puis il faut dire son nom complet, ça a l'air, parce qu'il a des émotions lui aussi.
327, qui est bien sûr une référence au Docking Bay 327 sur la Death Star, puis au J-Type 327 Nubian Royal Ship. Donc c'est des références au film, là. Le Docking Bay 327, c'est dans A New Hope, le hangar où c'est que le Falcon est amené.
Ouais, c'est ça. Puis parlant un peu de ça, moi j'ai trouvé que le Tranquility, donc l'acclamateur, ou la nouvelle version de l'acclamateur, mm-hmm. ressemble beaucoup à la Death Star en tant que telle, à l'étoile de la mort, parce que les portes qui se ferment en diagonale, puis mm-hmm. la salle des machines, tout ça ressemble pas mal le à une core, base plus ouais. qu'à un vaisseau. Là.
Faudrait voir. Il n'y a pas énormément de scènes à bord des Star Destroyer, à part sur le pont de commandement là, dans les 6 films. Donc, faudrait voir les couloirs, etc., si ça ressemble comme à la Death Star. C'est sûr que ça reste une architecture impériale, là, probablement. Là.
Ouais, c'est ça.
Mais c'est vrai que ça a comme une connotation impériale beaucoup. Il y avait un, les duels étaient excellents, je vais dire. Comment dire, la première partie du duel qui était seulement Luminara et Asajj Ventress me faisait penser au combat de Obi-Wan et Anakin sur Mustafar avec tout le feu, les teintes orangées, etc. Et puis ensuite, ce duel-là s'est transformé un peu au duel de l'épisode 1, le Duel of the Fate avec Obi-Wan, Qui-Gon et Darth Maul quand Ahsoka arrive et avec les plateformes. C'est vraiment comme ils ont fait une ouais. combinaison des deux types de combats. Et qu'est-ce qui est génial, c'est que surtout Asajj Ventress se sert énormément de l'environnement. Elle se sert pas juste de son talent au sabre laser, mais elle sert énormément de l'environnement. Elle coupe un tuyau pour envoyer de la vapeur chaude dans l'œil de Luminara. Elle coupe des tuyaux, etc. C'est vraiment un duel vraiment c'est bien pensé.
C'est un peu la façon du Dark Side, ça. Même Darth Maul faisait ça, puis Darth Vader aussi fait ça contre Luke. Donc, ouais. Dark Side, de se servir des éléments qui nous entourent pour à place d'affronter l'autre personne. Donc,
c'est vrai, j'avais pas vu la référence. C'est vrai que dans Empire Strikes Back, Vader, il va d'aplomb avec les objets qui l'entourent.
Je voulais mentionner que au niveau des pouvoirs dans la force de Luminara, on doute un peu de ses pouvoirs d'interrogation. On peut mentionner aussi que pendant le combat contre Asajj Ventress sur la passerelle, Asajj lui fait tomber des tubes sur elle. Elle fait le mouvement pour les repousser avec la force, mais elle n'est pas capable. Donc, on voit vraiment qu'il y a une différence dans la force par rapport à Yoda qui, lui, est capable de bouger les objets, les repousser assez facilement. Mm-hmm.
Donc c'est peut-être son talent télékinésique est moins développé. Je pense que c'est Corran Horn qui est pas capable de lever des objets.
C'est vrai, dans la force. Il y a des précédents, ouais.
C'est ça exactement. Puis si tu compares par exemple Ahsoka, quand Asajj arrive pour donner le coup fatal, Ahsoka arrive puis elle fait un force push assez hallucinant qui envoie Ventress à l'autre bout de la salle dans un tuyau là.
Ouais, c'est vrai. Donc, elle, au niveau télékinésique, elle aurait vraiment beaucoup de pouvoir aussi. Donc,
Exactement. Donc, il y a une bonne différence. Je veux dire, c'est comme... Luminara est maître Jedi, mais quoi, elle a eu un D comme note au...
au combat. Pas au combat, au niveau de...
De son diplôme de Jedi. Ouais. De son diplôme de Jedi, je sais pas.
Parce qu'au niveau du combat, elle semble assez bonne. Donc.
Ouais, c'est ça. En effet.
Parlant de combat, on voit pas... en fait, l'épisode ne mentionne pas Barry Sophie, sa padawan à Luminara, mm-hmm. puis qui normalement est tout le temps avec elle, j'imagine, pour dans les combats. Là, je crois qu'ils sont pas mal liés les deux. Les deux viennent de la même planète, donc mm-hmm.
faudrait
on sait pas pourquoi elle n'est pas là.
Faudrait... Non, mais je pense pas que c'est la même race exactement, mais faudrait vérifier la chronologie. Peut-être que Barry Sophie est actuellement dans... la MedStar Duology, parce que elle est séparée de sa maître dans cette série-là, sauf que je crois que ça se passe 2 ans après la bataille de Geonosis, tandis que cet épisode-là est relativement rapproché de la bataille de Geonosis, donc c'est certain que ça fait partie de la compression chronologique qu'ils essaient de faire pour insérer justement la série Clone Wars dans l'univers chronologique existant. Donc, on peut pas vraiment se fier sur ça. Et probablement à quelque part d'autre.
Ben, on sait pas. Ils vont peut-être définir d'autres choses qui vont briser un peu l'univers étendu. Là, je sais pas à quel point ils respectent l'univers étendu à date dans la série. J'ai pas suivi beaucoup les romans. Là. Mm-hmm.
Mais c'est vrai que je suis surpris que Barry Sophie soit pas là. Du moins, elle a peut-être probablement justement été assignée à un commandement elle aussi. Mais bon, elle restait je me souviens pas si elle était la padawan de Luminara, donc peut-être qu'elle a gradué à chevalier Jedi, un peu comme Anakin dans la série Clone Wars, dans le fond, donc...
Est-ce qu'on l'a vu dans Revenge of the Sith? Je crois pas, hein?
Non, pas du tout.
Non, c'est ça.
Donc, on l'a juste seulement vu dans l'épisode 2, Puis dans le roman Approaching Storm, elle est là aussi. Ça se passe immédiatement avant l'épisode 2. Donc ça se passe quand même avant, juste avant la bataille de Geonosis. Donc il s'est passé quelque chose, parce que c'est ça, Approaching Storm se passe immédiatement avant le roman. Et puis théoriquement la série Clone Wars se passe immédiatement après Geonosis, ou peut-être quelques mois après. Donc il est arrivé quelque chose entre-temps à Barry Sophie. Elle est partie à quelque part, est devenu chevalier Jedi. On le sait
on
pas.
On va peut-être la voir plus tard.
Ils ont peut-être
dans
pas
la série.
Ouais, ils ont peut-être pas eu le temps de faire les modèles. Le modèle 3D de Barriss, là, puis ça va peut-être venir éventuellement, là, dans le fond.
Est-ce donc, que... au départ, avant même les combats, il y a Asajj Ventress qui va placer les thermal detonators dans la salle des machines. Donc, je me posais la question parce que je les ai comptés. Il y en pose 10 thermal detonators. On les entend un après l'autre. Quand elle contourne le petit droïde de sécurité, ou le petit droïde, je sais pas si c'est un droïde de sécurité, mais en tout cas. Mm-hmm. Mais donc, où elle les place sur elle, ces thermal detonators-là, parce qu'elle a un habit relativement moulant, et puis je trouve pas qu'il y a ben d'endroit pour les cacher, là.
C'est un bon point, elle avait pas de sac à dos, rien, là.
Non, c'est ça.
Même ses sabres laser, elle fait juste les fixer comme dans son dos, là. Elle
a... Exactement, donc on les voit lorsqu'ils sont dans son dos. Je sais pas où est-ce qu'elle les a placés, là.
Mm-hmm. Est-ce que t'avais vu que Argaius serait le traître? T'avais-tu prévu ça? Moi, non, ça m'a pris par surprise complètement.
Non, je pensais que ça aurait été un nouveau personnage qui aurait été développé un peu plus loin, qui serait peut-être un ami des clones ou quelque chose du genre, mais je me suis vite aperçu que non.
Ça aurait été bien qu'il ait été développé comme personne gentille et puis qu'il aurait été un traître par la suite.
Mais il s'est avéré un traître en partant.
Ouais, c'est ça. C'est pareil comme avec R3, là, c'est Goldie. Tu sais, ça a pris un peu de temps avant qu'on s'en rende compte. Ben, deuxième épisode, dans le fond, c'était pas si long, mais...
Mais moi, j'aurais peut-être vu un clone qui aurait eu une promotion, qui serait devenu Senate Guard, puis après ça, qui aurait décidé d'aller plus du côté de l'Empereur, ou mm-hmm. En tout cas, peut-être quelque chose du genre, là.
Mais connaissant Palpatine, je doute qu'il aurait accepté des clones dans ses gardes personnels. Tu vois un peu qu'Argaius est pas raciste en tant que tel, là, mais xénophobe, dans le sens qu'il aime pas probablement les autres espèces, ou il aime pas vraiment pas les clones. Ben,
non, c'est ça. Je crois pas qu'il respecte les clones. En fait, il a un peu mentionné lorsque Ahsoka mentionne Argaius, est-ce que je peux désobéir à un ordre direct? Gree, il disait que non, je ne désobéirais pas, mais Argaius, lui, il dit que, en fait, sa phrase « Sometimes being a soldier is doing what you think is right », donc lui, il se permettrait de contredire les ordres, donc en fait, il parle un peu contre le clone trooper qui est là présentement. Là.
Mm-hmm. Il montre que les humains sont capables de penser un peu plus dans un certain sens.
C'est ça, on dirait qu'il y a comme les clones, c'est des êtres secondaires, puis encore plus que les droïdes, parce qu'il mentionne aussi qu'ils sont supérieurs aux droïdes.
Mm-hmm. C'est vrai. Il démontre vraiment une hiérarchie dans les dans l'ordre. Évidemment, il y a eu un combat corps à corps entre Argaius et le commandant Gree. C'est dommage, ça n'a pas duré aussi plus longtemps que ça. J'aurais aimé ça les voir vraiment. À la Bruce Willis un peu là.
Ben c'est ça, parce que je me suis dit ça, ils doivent être à peu près égal là. Il y en a qui sont un commando, mais l'autre il est quand même c'est un général, ou je sais pas, c'est son grade.
C'est un commandant, donc t'as capitaine commandant.
Ensuite. Donc les deux doivent quand même être de niveau assez élevé là. Mm-hmm. Donc ça aurait été un bon combat, je pense.
Mm-hmm. Pour revenir au combat, une chose qu'on a oublié de mentionner, pour se sauver, une fois que elle a eu le signal de Argaius que Newt Gunray était en sa possession, elle se sauve et elle lance un thermal detonator sur un réacteur, et Ahsoka, au moment où elle est complètement par-dessus le thermal detonator, celui-ci explose, puis je comprends pas qu'elle ait été capable de survivre à quelques centimètres du thermal detonator, puis elle a absolument rien, là. C'est vraiment surprenant.
Ouais, elle a aucune blessure, rien du tout. Donc, Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, là. Elle s'est peut-être protégée avec la force d'une certaine façon ou pas du tout, là. Je sais pas.
J'ai trouvé aussi que l'épisode, si on parle plus côté technique, je trouvais que, si je le compare à Bombad Jedi, par exemple, que je trouvais que les textures étaient, ça avait l'air plus plastique, là. Je sais pas si c'est juste mon impression. Mais dans cet épisode-là, ici, je trouvais que tout était super bien texturé, ça ressemblait beaucoup plus à un film, les explosions étaient meilleures, etc. Donc, j'avais rien dans le décor qui me distrayait, tu sais, qui me, comme supposons les dans l'épisode Ambush, les espèces de plantes aquarium qui avaient l'air d'un décor en bois, là. Tu sais, les espèces d'algues d'un désert sur Toydaria, je trouvais que t'sais, ça avait l'air vraiment, c'était, les textures étaient pas belles, c'était vraiment cheap. Tandis que là, vraiment, le décor était super beau, puis ça me fait focusser beaucoup plus sur, sur
l'histoire. En fait, c'est des décors familiers, puis c'était métallique, donc c'est plus, tandis que quand c'est des environnements de planète, ils essayent d'être imaginatifs un peu, puis des fois ça marche, des fois ça marche pas.
Mm-hmm.
Donc,
Puis aussi, du côté technique, ceux qui se rappellent dans Bombad Jedi, quand Padmé courait, tu avais pratiquement l'impression qu'elle courait dans le vide ou que le timing de sa course sur la passerelle en brique était étrange. J'avais pratiquement l'impression qu'elle faisait du moonwalk là, ou quelque chose du genre. Tandis que si tu regardes la marche de Asajj Ventress puis la marche de Luminara, est beaucoup plus naturelle, beaucoup plus fluide que justement celle de Padmé qui était un peu plus robotique. On voyait que c'était un loop d'animation, là. Ouais, dans le fond.
Oui.
Une autre chose que j'aime de cet épisode-là, et puis ça fait comme deux épisodes, dans le fond, si on compte Bombad Jedi et celui-ci, c'est que en tant que tel, c'est des épisodes qu'on pourrait considérer individuels, mais qui sont liés ensemble par un petit événement. Contrairement à la trilogie du Malevolence, qui était vraiment comme une histoire, ça c'était comme un épisode de 45 minutes, comparativement à ceux-ci qui sont des épisodes que si t'en as manqué un, le petit résumé au début va tout t'expliquer, et puis tu peux poursuivre l'histoire, tu sais, ok, Gunner a été capturé dans l'épisode précédent, cool, on le sait, c'est Padmé qui l'a capturé, excellent, on continue, et puis ça se poursuit, c'est vraiment... La coupure est claire, puis on peut écouter l'épisode par lui-même. Okay. Le prochain, qui est Lair of Grievous, il n'y a pas nécessairement un lien. Probablement que la libération de Gunray, il va avoir un lien avec ça. Mais ça reste comme trois épisodes, entre guillemets, individuels.
Okay.
C'est mon aperçu, j'aime ça, des épisodes comme ça. C'est sûr que c'est le fun une fois de temps en temps de voir une trilogie, là. Mais j'ai bien
en fait, c'est ça, le lien, il se fait seulement à la fin. Là. C'est sûr qu'il va se passer quelque chose qui va être en relation avec la dernière scène, par exemple.
C'est ça.
Donc, parce que là, ils sont pris, ils ont plus de engine, donc il y a quelqu'un qui va aller les chercher à quelque part. Là, donc.
C'est ça. Dans la trilogie Malevolent, chaque épisode est intrinsèque aux autres. Je veux dire, ils sont comme interreliés. Tu peux pas en enlever un. Tandis que celui-ci, ben, c'est quand même ça qui est bien.
Oui, il se tient debout. Là.
C'est ça.
Moi, j'avais un petit détail que je voulais mentionner, puis une question que je pose à... parce que j'ai pas la réponse, c'est que je voulais savoir si quelqu'un comprenait les codes de couleurs sur les communicateurs sur les bras des clones, parce que il y avait quatre carrés gris, puis un petit carré plus petit, puis en fait, c'est quatre gros carrés, puis un petit carré, puis je me posais la question, c'était quoi leur utilité, puis pourquoi un plus qu'un autre, puis pourquoi sur Asajj Ventress, ça devient rouge soudainement... lorsqu'elle l'utilise, au lieu d'être vert comme les clones. Donc, une petite question ouverte comme ça que je pense.
Non, en effet. Moi, j'avais l'impression que même sur Asajj Ventress, c'était vert aussi. C'est juste la position qui changeait. Enfin, il faudrait que je le revoie en tant que tel. Là.
En fait, moi, j'avais une petite chose que je voulais mentionner au niveau de... En fait, l'humour, c'est Gonu qui le faisait. Puis à un moment donné, s'il veut donner son propre conseil, parce que lors de la conversation entre Ahsoka, Argaius et Gree, qui se mentionne ensemble s'il désobéirait à un ordre direct, lui mentionne « I don't trust my own skin if I don't have to ».
Alors,
il, On dirait qu'il est juste en arrière de la scène, dans la cellule, à côté sur le bureau, puis il veut faire partie de la conversation.
les autres le regardent comme, puis lui, il fait, ben quoi, tu sais.
C'est ça.
Je donne mon avis.
Exactement, tu sais. En tout cas, c'était drôle, puis c'était comme juste subtil un petit peu, c'était pas niaiseux.
Mm-hmm. C'est le fun aussi que, bon, le Commander Gree, on l'avait vu dans le film Clone Wars, je pense. Puis là, c'est la première fois qu'on voyait un épisode focusé sur lui. Puis je pense que dans le prochain épisode, c'est un autre commandant qu'on va voir. Parce qu'à la date, on a vu le Capitaine Rex, qui est théoriquement qui est le commandant des clones qui suit Anakin, qui va être...
Le bleu, qui va être
le chef des 501st. Dans le fond, dans l'épisode 3, quand ils s'en vont attaquer le Temple Jedi, c'est lui qu'on voit en avant. T'as le commandant Cody, donc un grade plus haut, qui lui est celui associé à Obi-Wan. D'ailleurs, c'est celui qu'on voit sur Utapar, qui est
jaune.
Ouais, jaune, c'est ça. Puis maintenant, on a le commandant Gree, qui lui est celui sur Kashyyyk que Yoda trucide, tout simplement. C'est celui qui en a un qui survit pas. Mais celui dans le prochain épisode, dans le preview, il est comme rouge. Il y a comme des traces de rouge dessus. Donc, je connais pas assez les types de clones pour vraiment l'identifier. Je vais essayer de trouver ça.
Mais les rouges, on les voit dans Revenge of the Sith.
Mm-hmm.
Lorsqu'il est dans le Sénat. Lorsque Yoda et l'Empereur se battent ensemble. C'est eux autres qui font la recherche dans le Sénat.
Ah ben oui, c'est vrai. Donc,
c'est quoi son nom et son grade?
Puis ça serait pas eux qu'on voit dans Ambush. Il est pas rouge, le soldat principal dans Ambush. Quand Yoda, il leur parle dans la petite grotte, là, puis il enlève leur casque, là. Il y en a un, justement, qui est en rouge.
Je me rappelle plus.
J'ai l'impression que c'est lui qu'on va voir encore. En tout cas, faudrait vraiment voir, confirmer.
Un autre point que je voulais peut-être aborder au niveau de à la fin du combat, lorsque Luminara mentionne à Ahsoka, I never met an adversary like her. Donc, elle aurait jamais eu un adversaire aussi fort que ça. Puis, en fait, au début, lorsqu'elle se battait contre Asajj Ventress, elle mentionnait Asajj Ventress qu'elle reconnaissait le combattant, le fighting style, donc la façon de combattre de Dooku.
Mm-hmm. Puis elle a dit qu'elle n'a jamais affronté quelqu'un. Donc, non, je pense pas qu'Asajj Ventress est meilleur que Dooku, mais parce que si Luminara a affronté Dooku, probablement que c'est quand il était pas parti de l'Ordre Jedi, là, peut-être qu'il était professeur ou je sais pas trop. Puis c'est là qu'elle a reconnu son style, puis peut-être qu'elle l'a combattu aussi, mais c'est peut-être juste le fait qu'elle reconnaît le style, parce que c'est juste Dooku qui utilise ce style-là, probablement, là, ou quelque chose comme
c'est
ça.
C'est ça. En fait, c'est peut-être une contradiction, ça n'est peut-être pas, ça dépend si on considère... le roman Approaching Storm, là, l'univers étendu, là, si. Mm-hmm. Parce que je crois qu'elle l'a combattu dans ça. Je pense que oui.
Je pense pas du tout. Dooku, il est pas dans ce roman-là. Donc, non. Je dirais que non. Ben, enfin, les séparatistes gagnent. Yeah! C'est tellement rare.
Ouais, c'est sûr.
T'sais, je veux dire, oui, ils gagnent, hors de la caméra, hors champ, si on peut dire, parce que souvent dans les newsreels, dans les petites nouvelles de début d'épisode, ils mentionnent que les séparatistes ont donné une défaite cuisante à la République, etc., blablabla, mais on les voit jamais en tant que tels. Là, enfin, vraiment, là, c'est une victoire des séparatistes. Une victoire de Ventress, vraiment, c'est elle qui...
Oui, parce que c'était en fait sa dernière chance, là, parce que l'Empereur, puis Dooku, là, il l'avait mentionné, en tout cas, l'Empereur l'avait mentionné qu'il était pas tout à fait d'accord avec le choix, là, au début. Là.
Mm-hmm. D'ailleurs, à la fin, quand Argaius, il mentionne que, inquiète-toi pas, je vais te mentionner dans mon rapport, tu vois que elle voulait vraiment prendre le crédit, elle voulait pas, parce que c'était comme sa dernière chance, donc si ce n'est pas elle qui réussit la mission, qu'est-ce que Palpatine va penser?
Exactement. Donc, après tout ça, le crédit.
Mm-hmm. Et puis, bien sûr, Gunray lui offre, elle lui dit, a good feeling about you, I have a good feeling about you, assassin.
Donc, c'est l'approche classique qu'il faut qu'il mentionne à tous les épisodes, sauf un peu dans le positif cette fois-là.
Ouais. Donc, exactement.
I have a good feeling about you. Puis il l'a dit en fait deux fois. Une fois à Argaius, puis une fois à Sage Ventress, dépendant de comment la situation l'avantageait, là.
Exactement. C'est vraiment un profiteur, Gunray. C'est complètement fou. Je sais que tu voulais mentionner quelque chose par rapport à la cellule.
Ouais. Ah oui, c'est vrai, oui. Attends, je me posais la question parce que, en fait, c'est une situation un peu bizarre, je trouve. Quand Ahsoka se fait emprisonner dans la cellule avec son sabre laser, elle frappe son sabre laser sur l'écran
magnétique, là, ouais. L'écran laser, quelque chose, ouais.
Ouais, c'est ça. Donc, puis ça, je peux comprendre que ça arrive laser ensemble, ça se repousserait, là. Mais tous les murs autour sont toujours disponibles. Tu peux faire des trous un peu partout, comme Ahsoka Ventress fait un peu partout dans l'épisode. Elle coupe toutes les pièces de métal, donc... Pourquoi ne pas contourner les projecteurs laser, si on veut, qui sont devant la cellule?
Mm-hmm.
Je me posais vraiment la question, là. C'est vraiment pas compliqué de contourner ce piège-là, en fait. Mm-hmm.
C'est vrai. Faudrait dire ça à Obi-Wan puis Darth Maul dans l'épisode 1 aussi. Même Qui-Gon, il aurait pu comme percer le champ de latéralement pour les désactiver ou quelque chose comme ça, puisque ça passe à travers. Le sabre laser passe à travers, je sais pas combien d'épaisseur de Durasteel.
Ouais, c'est ça. Puis en plus, on les voit, les projecteurs, autant dans l'épisode 1 que dans celui-là. Donc, pourquoi pas viser le sabre laser direct sur le projecteur en tant que tel? Donc, c'est vraiment, ça sort de sens, là.
En effet. T'as-tu eu l'occasion de voir la preview du prochain épisode?
Non, je l'ai pas vu.
OK.
Ben, je pourrais dire que Ahsoka Ventress, elle semble vraiment donner un combat contre Argaius. Donc, s'ils sont de pair ensemble, ou je sais pas si elle savait d'avance, probablement que oui. Mais as-tu quand même les deux autres gardes qui probablement ils sont pas impliqués du tout dans le deal?
Mm-hmm.
Puis elle repousse un tir de Argaius, puis elle la voit le coup direct sur son épaule. Mm-hmm. Puis elle projette aussi avec la force dans les consoles. Donc je me suis dit, est-ce qu'elle veut vraiment le faire pareil comme si elle était pas de pair avec, ou si elle voulait vraiment le tuer pour
Ben, t'as-tu remarqué que Argaius, on dirait que quand il tire sur Ventress la première fois, on dirait qu'il tire à côté volontairement. Puis c'est peut-être là qu'elle reprend le tir, puis elle fait juste toucher l'armure. C'est vraiment c'était peut-être un indice, là. Moi, mon impression, c'est que si tu regardais le tir de Argaius, il passait au-dessus de la tête de Ventress, ou un peu en diagonale, là. C'était mon impression. Peut-être que c'était volontaire à ce moment-là. J'imagine que oui, puisqu'il savait que les deux étaient en connivence. Mais bon...
Ou peut-être elle voulait s'en débarrasser tout de suite au lieu d'attendre à la fin de la mission, là, on sait pas.
Ouais, peut-être aussi. Prendre le crédit immédiatement, dans le fond.
Ouais, c'est ça.
Donc, en conclusion, c'est un épisode excellent, en frais de rythme, en frais de... Même la musique, j'ai trouvé ça excellent. Il y avait rien
de techno.
De trop techno. On reconnaissait facilement le thème de Ventress, les violons font... T'sais, on les reconnaît très facilement.
C'est vrai, ouais.
À chaque fois que Ventress est là, les violons très aigus, on les entend tout le temps. C'est vraiment, j'ai bien aimé ça. Ventress, j'y ferais garder sa petite robe. Je trouve que le look est plus beau avec avec la robe, l'espèce de jupe, là.
Ça donne plus un style samouraï avec la jupe, donc j'aime mieux ça, moi.
Enfin. Elle va peut-être se rhabiller. Dans le fond. Et puis, comme épisode, il se tient. Je pense que c'est un des très bons individuellement. Il y a du sabre laser, il y a de la traîtrise, il y a des batailles de clones. La seule chose qui manquait, c'est des batailles spatiales. Il y en a un petit peu, mais c'est juste les droïdes, les chasseurs droïdes qui tirent sur le vaisseau. Donc,
je sais pas comment ils les appellent au départ, ces vaisseaux-là. Il donne un nom, j'ai essayé de repasser l'épisode pour essayer de trouver c'était quoi le nom, comment il les appelait.
Ah, c'est les Vulture Droid?
Ouais, mais il y a un surnom qui mentionne au début de l'épisode, puis je sais pas c'est quoi.
Okay.
Comme ils appellent les Clankers.
Mm-hmm.
Mais je pense que les vaisseaux, les les vaisseaux, ils appellent un surnom.
Ouais, un surnom, ok. Ouais, c'est très possible. Enfin, j'ai bien aimé cet épisode. C'est Paul Dini qui a écrit cet épisode. C'est celui qui a écrit de nombreux épisodes de dessins animés, incluant Batman Beyond. Donc, il est très reconnu pour son écriture.
Ouais, les textes étaient bons, là. Je veux dire, il y avait des petites morales, des petites jokes, mais c'était relativement bon, là. Mm-hmm. Parce que c'est ça, en fait, la petite morale du début, la chose sur l'instinct, où tu périras, ou un peu une traduction libre, là. Mm-hmm. Donc, à la fin, elle mentionne « I should have listened to your advice » en parlant à Ahsoka, donc c'est un peu un lien avec ça aussi, là.
C'est ça, la maître a été dépassée par la Padawan, d'un certain
sens. En fait, c'est les Padawans qui sauvent tout le temps les maîtres.
C'est vrai, pareil. C'est parce que c'est super Ahsoka, là. Je veux dire, elle est meilleure dans tout que tout le monde, là. Elle a les meilleures idées pour interroger. D'ailleurs, aussitôt qu'elle a retiré le sable laser, Gunnery décide, OK, je vais parler. Puis là, elle regarde Luminara. Ha, ha, ha. Je te l'avais dit que ça fonctionnerait.
Ben. Donc c'est ça, ouais, c'était un bon épisode.
Bon, ben merci de tes commentaires, François.
Pas de problème.
Ainsi se termine ce 7e épisode de Star Wars en direct édition Clone War. Si vous avez des commentaires ou suggestions sur la série Clone War, laissez-nous un message sur notre boîte vocale Skype usagée SW en direct ou écrivez-nous à l'adresse studio@swendirect.com. Je vous rappelle que si vous aimez cette émission, parlez-en autour de vous. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur le groupe Facebook dédié à la version française de Star Wars en direct et suivre nos faits et gestes sur Twitter. Tous ces liens sont disponibles sur le site swendirect.com. Je vous rappelle que la prochaine émission régulière de Star Wars en direct aura lieu le 14 décembre 2008, soit ce dimanche à 13h heure du Québec, 19h heure de l'Europe. Le sujet sera les suggestions cadeaux pour le temps des fêtes. Suivra ensuite le prochain épisode de Star Wars en direct édition Clone War, qui sera consacré au prochain épisode de Lair of Grievous. Le résumé de cet épisode va comme suit. Le général Grievous doit se prouver digne des séparatistes lorsque le comte Dooku conduit le maître Jedi Kit Fisto et son ancien padawan Nadar Veb à l'infâme enclave de Grievous. Je vous laisse donc sur la preview de cet épisode et merci d'avoir été à l'écoute de Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars.
A lair of evil. Master Kit Fisto and his troops locate the secret home of the murderous droid commander General Grievous.
This place looks like a shrine.
The Jedi may outnumber their enemy, but soon realize the most dangerous adversary is on his own turf.
You let the Jedi in here!
Now that our heroes have gotten into Grievous's lair...
Greetings, Jedi!
Can they get out with their lives? Find out next time on The Clone Wars!